Bienvenue sur Entreprendre dans la mode, le podcast des entrepreneurs et des acteurs de la mode. Je suis Adrien Garcia, designer et fondateur de la marque de vêtements Réunis. Chaque semaine, je vais à la rencontre d'une personnalité du monde de la mode pour comprendre son parcours, ses problématiques et ses stratégies pour innover et se développer. Avec ce podcast, je souhaite recueillir et partager des conseils pratiques et des idées neuves pour se lancer et réussir dans la mode. Entreprendre dans la mode, c'est aussi une newsletter dans laquelle je partage chaque vendredi les outils, les méthodes et les apprentissages clés d'un entrepreneur à succès. Pour ne pas rater les prochaines, inscrivez-vous gratuitement sur www.entreprendredanslamode.com. Enfin, si vous souhaitez sponsoriser ou co-créer du contenu avec Entreprendre dans la mode, c'est possible. Là encore, rendez-vous sur le site web du podcast. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Entreprendre dans la mode. Je suis aujourd'hui avec Pierre-Yves Roussel. Bonjour Pierre-Yves.
Bonjour Adrien.
Ma première question, et je la pose à tous mes invités, c'est est-ce que tu pourrais te présenter pour commencer ?
Alors, tu veux que je commence où ? Parce qu'on peut, revenir à la tendre enfance ou me présenter dans ces, dans ces quelques dernières années où j'ai changé beaucoup de choses dans ma vie,
ouais.
On peut peut-être en parler.
Oui, carrément.
Mais sinon, je suis né à Paris, dans une famille assez nombreuse, puisque j'ai trois grandes sœurs, ouais. Un jeune frère, et pas du tout dans le milieu de la mode. Voilà, mon père était professeur de médecine et ma mère dirigeait un dispensaire, donc plutôt dans un environnement médical.
Ouais.
Voilà, et j'ai grandi à Paris, j'ai fait mes études... à Paris, et puis ensuite en Belgique, et puis ensuite je suis parti aux États-Unis pour faire mes études aux États-Unis.
D'accord.
Mes études aux États-Unis.
Pourquoi en Belgique ?
Parce que j'avais une école de commerce qui était de très
une
bon
belle
niveau.
École. Voilà. Ouais, okay.
Et j'ai commencé à travailler d'ailleurs, après cette école, j'ai commencé à travailler en Belgique, mais dans la banque, donc très très loin de la mode. Voilà,
ouais.
J'ai commencé comme trader sur les marchés financiers.
D'accord.
À 22 ans.
À 22
voilà,
ans.
Voilà, donc j'ai fait ça de même 23 ans. C'était le début des marchés financiers. Les marchés d'options, de swap.
Ouais.
Ça t'a peut-être pas intéressé beaucoup de monde sur ce podcast de la mode, mais voilà, c'était assez fascinant. Voilà,
ouais.
Donc j'ai fait ça pendant 2 ans. J'étais un mini golden boy, comme on disait à l'époque.
Ouais.
Voilà. Et puis après, voilà, j'ai changé d'orientation.
Très bien. Et tu rêvais de faire quoi quand t'étais plus jeune?
Alors moi j'ai toujours aimé, je m'embêtais un peu en classe, donc je dessinais beaucoup.
D'accord, voilà.
Donc,
créatif alors.
Et voilà, donc je dessinais des maisons, des bâtiments, etc. Et puis je dessinais des vêtements, parce que c'est assez surprenant. Et d'ailleurs j'y ai jamais repensé jusqu'au moment où je suis vraiment rentré dans la mode par hasard, je l'ai raconté, à 35 ans. Donc sinon
ouais, c'est
quasiment,
tard.
Voilà.
Ouais.
Mais en fait je sais pas pourquoi j'avais toujours eu ce goût un peu créatif du dessin, surtout parce que c'était une façon de faire passer le temps quand je m'embêtais un peu. Et donc je me suis pas posé la question quand j'ai fait des études de commerce, etc., de travailler dans la mode, parce que c'était vraiment très éloigné de mon univers, on va dire proche. Par contre, le seul métier que je me suis vraiment posé la question de faire, c'était de devenir architecte.
D'accord.
Parce que j'ai toujours une passion pour ça. Et d'ailleurs, j'y passe beaucoup de temps, parce qu'on construit des magasins partout dans le monde aujourd'hui, et j'ai fait ça pendant des années quand j'étais chez LVMH, et je passe beaucoup de temps sur les magasins, parce que j'adore ça. Voilà, le côté architecture spatiale me plaît beaucoup. Voilà. Donc c'est le seul métier que j'ai vraiment considéré en dehors de faire de la gestion ou du business.
Ouais, d'accord. Donc tu fais la Wharton, tu rentres chez HSBC.
Voilà.
Voilà, Golden Boy.
Ouais. Ouais, ouais, absolument.
Et Wharton, ensuite...
qui est le temple de la formation, c'était la première école de commerce créée au monde d'ailleurs.
D'accord.
Wharton, qui était créée, je sais pas, il y a 150 ans, et qui s'appelait School of Finance. Donc c'est là où tous les Golden Boys ont été formés. Voilà.
D'accord.
Donc vraiment un univers
donc
complètement
c'est vraiment
différent.
Ouais. Voilà. Okay. Et ensuite, donc HSBC pendant combien de temps ?
Deux ans. Et puis après, j'ai trouvé à la fois passionnant ce métier de la finance qui était vraiment en bouillonnement. Mais bon, être assis devant des écrans tout le temps, je trouvais qu'on perdait un peu le contact avec la réalité. Mmh. Et puis c'était vraiment une bulle, quoi. Donc j'avais du mal. J'aime bien le concret. Voilà. C'est pour ça que j'aime bien l'architecture, j'aime bien les dessins, j'aime bien le côté physique,
ouais.
Les produits, j'aime bien les clients, etc. Donc, mais je savais pas trop quoi faire, très honnêtement. Et alors là, par hasard, comme quoi il a fait les choses, je tombe, donc j'habitais en Belgique à l'époque, je vais chez des copains et je tombe dans le Monde, je lisais le Monde et je tombe sur une publicité pour McKinsey,
okay.
Donc un grand cabinet de conseil, qui avait une pleine page et qui cherchait à recruter des consultants. J'ai quasiment jamais entendu parler de McKinsey et du conseil. Et je crois qu'ils cherchaient à se trouver des profils un peu différents, etc. Donc voilà, j'ai répondu à cette annonce. J'ai passé, je sais pas, 10 entretiens. Parce que c'est assez, et j'ai trouvé ça assez fascinant. C'est-à-dire, je me suis retrouvé en face de personnes dont le métier, c'est de résoudre des problèmes. Donc, les entreprises viennent les voir avec des problèmes. Donc, à l'époque, c'était plutôt des problèmes de nature stratégique. Maintenant, ils ont un peu étendu leur périmètre d'intervention. Et donc, j'ai passé 10 entretiens passionnants à discuter d'un cas dans le chocolat, d'un cas dans l'acier, un autre dans la distribution, etc. Ouais. Et donc, voilà, à 24 ans, je suis rentré chez McKinsey.
Hyper jeune.
Hyper jeune, oui. Et
t'es resté ?
Et je suis resté 12 ans. Voilà,
c'est donc énorme. J'ai fait un gros morceau de carrière.
Donc j'ai travaillé pour eux à New York, à Paris, à New York. J'ai travaillé en Asie aussi, à Hong Kong et au Japon.
C'est quoi les cas sur lesquels t'as bossé ?
En 12 ans, sur une multitude de cas. Je me suis assez rapide. Alors, au début, comme ils avaient vu que j'avais fait de la banque, ils m'ont mis dans la banque. Alors, j'ai dit, non, moi, je suis pas venu pour faire de la banque. C'est bien pour ça que j'ai souhaité faire autre chose. Et là, ils m'ont dit, mais c'est quoi les secteurs qui t'intéressent? Et moi, j'ai dit, tous les secteurs où il y a un consommateur. Mmh. Voilà. Où il y a un produit. Ouais. Voilà, c'est ça qui me plaît. Et donc, j'ai commencé à travailler pas mal dans la distribution. Mmh. Donc, à la fois la distribution, la grande distribution, la distribution spéciale. La grande consommation, je viens de travailler un peu dans la pharmacie, donc tout ce qui était le consumer au sens large. Il y a à la fois il y a le secteur industriel, il y a le secteur financier, et puis il y a le secteur consumer au sens large. Voilà. Et moi j'ai travaillé là-dedans. Et donc, vraiment.
Et c'est quoi les typologies de sujets que vous traitez?
Alors, il y avait vraiment tous les sujets. Ça pouvait concerner deux entreprises qui envisageaient de fusionner, ou un rachat d'entreprise, ou une réorganisation, ou un lancement de nouveaux produits. Mais j'ai travaillé aussi sur des choses qui étaient plus cœur de métier, par exemple la gestion des catégories dans la distribution des catégories de produits qui est assez intéressant parce que ça se rapproche un peu du merchandising en fait, dans la mode. C'est-à-dire des structures de gamme, comment est-ce qu'on structure les gammes par niveau de prix, comment est-ce qu'on couvre les besoins, et ça c'est des méthodes qui sont assez éprouvées en fait dans la grande distribution, dans la grande consommation. Le marketing aussi, donc j'ai travaillé sur beaucoup de sujets marketing qui sont des sujets qui étaient, comme moi je suis arrivé plus tard chez LVMH en 2004, il y avait beaucoup de ces sujets-là qui étaient pas appliqués en fait, parce que la mode était, j'ai fait un peu vieux de dire ça, mais on était à des niveaux de développement qui étaient pas, on n'avait pas intégré un certain nombre de ces choses-là. Alors après, le luxe est différent de la grande consommation et la distribution. Mais voilà, donc j'ai travaillé sur des sujets dans des tas de domaines très différents. Avec des gens de très haut niveau, parce qu'on travaille avec les dirigeants, avec des équipes de bon niveau, donc c'était une formation assez extraordinaire.
Et comment ça t'a structuré? Qu'est-ce que tu as gardé de cette époque-là? Parce que j'ai l'impression que c'est, quand tu rentres chez McKinsey, c'est le cabinet de conseil par excellence, c'est le meilleur du monde. C'est un peu un troisième ou quatrième cycle dans ta formation, quoi. Si tu sors de là, t'es une machine de guerre, non?
J'ai l'impression d'être en formation en permanence. Ouais. Mais c'est vrai que on apprend énormément. Mais je crois qu'on apprend toute sa vie d'ailleurs. Le jour où on apprend plus, ça veut dire que d'abord il faut changer de métier ou changer d'activité, parce que c'est une source de renouvellement, l'apprentissage. Alors c'est vrai que la courbe d'apprentissage est très rapide parce que vous travaillez sur des tas de sujets différents, vous êtes avec des gens de bon niveau, ils vous donnent du feedback en permanence sur ce que vous faites bien, pas bien, etc. Donc vous êtes une vraie éponge, donc vous apprenez beaucoup. Ce que moi j'ai appris, j'ai appris plein de choses, mais ce qu'on apprend, je pense, vraiment fondamentalement, c'est la résolution de problèmes, en fait. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient vous voir ou qui fait appel à un consultant, c'est parce qu'il a un problème à traiter. Alors, le problème, il peut être de nature stratégique, organisationnelle, ça peut être du change management, c'est voilà, je sais où je veux aller, mais je sais pas comment aligner mon organisation, créer du changement, trouver la bonne façon d'organiser mon entreprise pour mettre un certain nombre de choses en œuvre, ou je viens de racheter une entreprise, il faut fusionner les entreprises, où sont les synergies, qu'est-ce que je mets en commun, qu'est-ce que je ne mets pas en commun, etc. Donc vous avez des questions comme ça en permanence. et vous apprenez à résoudre des problèmes dans des tas de domaines différents. Vous apprenez des méthodes aussi pour ça, et puis vous développez de l'expérience. Voilà. Et dans une entreprise, beaucoup de choses qu'on fait, c'est résoudre des problèmes. S'il n'y a pas de problème, on n'aura pas besoin de diriger les entreprises. Bien
sûr. Of course. Et comment est-ce qu'on arrive à s'approprier une organisation quand on n'est pas dedans? Enfin, comment est-ce qu'on arrive à comprendre l'organisation et les problématiques de l'organisation et répondre le plus justement possible sans être dedans? Parce qu'en général, un dirigeant qui gère une entreprise, etc., qui est dedans et qui connaît l'entreprise de A à Z dans les moindres détails, il n'arrive pas à trouver les solutions. Enfin, comment est-ce que vous arrivez et que vous allez être certain de répondre aux bons problèmes, quoi, et que vous n'allez pas faire une usine à gaz et qui va passer à côté, vous allez passer à côté du truc, quoi.
C'est-à-dire que d'abord il faut passer du temps pour comprendre l'entreprise. Alors au fur et à mesure on développe une expertise dans le secteur, donc on connaît bien le secteur, donc forcément on arrive déjà avec une connaissance sectorielle qui est bonne. Et puis après on passe du temps à apprendre l'entreprise en passant du temps avec les dirigeants, avec les équipes, en passant du temps sur le terrain. Alors on connaît jamais aussi bien l'entreprise que les gens qui y travaillent, mais c'est aussi un avantage. C'est-à-dire que quelquefois quand on est trop collé au sujet que l'on traite tous les jours, moi je le vois, même aujourd'hui, c'est compliqué de prendre du recul. Donc ce qu'il faut, c'est trouver l'équilibre où vous avez suffisamment de connaissances de l'entreprise et du secteur et des enjeux, et en même temps vous gardez aussi un certain recul. Et ce que je crois qu'attend un dirigeant ou n'importe qui, parce que d'une certaine façon, on parlera d'LVMH après, mais quand je dirigeais le Fashion Group, qui était en fait un pôle qu'on a créé avec... on avait 12 marques. Moi, je connaissais chacune des maisons. Alors, enfin, très bien, parce que j'ai fait ça pendant aussi 12 années. Ça, c'est un peu mon cycle, 12 ans. 12 ans chez McKinsey, 12 ans chez LVMH. Mais les gens qui travaillaient dans chacune des marques, ils passaient 24 heures sur 24. Moi, j'y passais un dixième de mon temps. Donc, j'avais pas la même connaissance intime de la marque, mais j'avais le recul aussi qui permet d'avoir cet échange. Donc je crois que c'est cet équilibre là en fait. C'était aussi une époque où on y repense, il y avait ça fait vieux de dire ça, mais il y avait pas, moi quand j'ai démarré chez McKinsey, il y avait pas Google, il y avait pas internet. Donc ce qu'on avait dans les cabinets de conseil, c'est qu'on avait des archives où on stockait en fait tous les rapports annuels des sociétés, des concurrents. On avait on découpait les articles de presse pour faire des revues de presse. Et donc il y avait un avantage compétitif énorme qu'avaient les cabinets de conseil, qui étaient leurs archives sur les secteurs d'activité. Donc moi je me souviens, quand on commençait à travailler pour une société, en 15 jours 3 semaines on leur faisait un benchmarking, comme on l'appelait à l'époque, mais ça, je sais pas si on utilise toujours ce terme là pour comparer leurs performances par rapport à d'autres acteurs du secteur, mais parce qu'on avait toutes ces données qui étaient stockées. Aujourd'hui, évidemment, vous allez sur Google, vous récupérez tout, et un analyste de première année en 2 heures le fait. Mais à l'époque, si vous n'aviez pas constitué ces archives au fur et à mesure du temps, vous étiez incapable de le faire. Donc l'information avait une valeur qui était considérable à l'époque. Évidemment, il y avait la capacité de la mettre en forme, de la traiter, de la rendre intelligente, ce qu'on appelle le « so what ». C'est-à-dire, si vous amenez une information ou une donnée, « so what », qu'est-ce qu'on en fait ? Voilà, sinon, ça ne sert à rien. Donc déjà, à l'époque, on en avait pas mal. Voilà, maintenant, l'information, elle est accessible partout. Mais la capacité de traiter cette information, qu'elle soit en allant sur Internet ou en échangeant avec une entreprise ou des collaborateurs, et donc de filtrer, de trouver ce qui est pertinent ou pas pertinent, reste un des exercices dans le business le plus important, en fait. C'est d'arriver à y voir clair dans cette masse d'informations, qu'elle soit analytique ou que ça soit des signaux faibles, ou que ça soit quand vous allez vous balader, vous allez voir la concurrence, vous allez voir des magasins, vous voyez des produits, c'est comment est-ce que j'analyse tout ça pour en tirer des lignes de force, des directions, des stratégies, des changements, des inflexions, etc.
Et alors, comment se fait la transition sur le LVMH Group, entre McKinsey et LVMH? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une rencontre, quoi.
Alors oui, c'est une rencontre. Alors bon, donc chez McKinsey, j'ai été élu partner assez jeune, et puis après j'ai même été élu senior partner. Donc moi, à 36 ans, j'étais au plus haut niveau entre guillemets chez McKinsey.
Game,
donc
chez McKinsey.
J'étais déjà un des plus âgés, ou voire donc ça me faisait bizarre parce qu'à 36 ans, j'avais l'impression déjà d'être un peu vieux entre guillemets.
Ouais.
Et donc j'avais jamais envisagé de faire du conseil toute ma vie. Et je m'étais même plusieurs fois posé la question de me dire bon, c'est très excitant, je travaille avec des gens super, on résout plein de problèmes, mais j'ai envie d'être vraiment à la manœuvre et de faire les choses, voilà, et diriger une entreprise. Et donc j'étais j'étais très pris et l'occasion s'est pas présentée, en tout cas pas quelque chose qui m'avait tenté. Et puis voilà, je travaillais déjà avec Bernard Arnault et le groupe LVMH, voilà, que je conseillais sur différents sujets. Je connaissais aussi Delphine Arnault qui travaillait chez McKinsey avec moi. Voilà, et donc j'avais déjà une certaine connexion, et il cherchait quelqu'un pour rejoindre le groupe, s'occuper de la stratégie, travailler avec lui, rejoindre le comité exécutif, en fait on s'est rencontrés, on a commencé à se parler sur donc un terrain différent que ce que la façon dont je travaillais avec lui, et il m'a convaincu, ce qui a pas été très difficile je dois dire, de venir travailler avec lui, et voilà, donc en 2004.
Et alors à l'époque 2004, le groupe à l'époque ressemble à quoi, et c'est quoi l'état des lieux?
Alors le groupe, c'était déjà un groupe très important et qui avait beaucoup de succès, hein, mais je crois qu'à l'époque il y avait, je cite ça de mémoire, hein, mais il y avait 25 000 collaborateurs ou 30 000 collaborateurs, je crois qu'il doit en avoir 200 000 maintenant.
Okay.
Et ça devait faire, je crois que la capitalisation, ça devait être 35, 40 milliards.
Oui,
maintenant,
une grosse
c'est 300 milliards, 350 milliards. C'était déjà une des très belles sociétés du CAC 40, à tout point de vue. Formidable groupe, formidable entrepreneur, et puis un secteur passionnant. Donc je suis rentré, donc il m'a formé en fait vraiment. Donc pendant 2 ans, j'ai travaillé sur la stratégie du groupe, sur différents sujets auxquels qu'il intéressait, tout en ayant l'occasion d'apprendre en fait et d'observer. Et puis j'ai commencé à prendre la responsabilité d'une ou deux affaires. Les premières affaires, c'était Louévé et Kenzo. Voilà, c'était les deux premières affaires dont il a demandé que je commence à superviser et puis trouver. Et puis après un an et demi, on a en fait créé le Fashion Group, donc qui était en fait. Pour décrire un petit peu le cheminement, il y a quand le groupe Bernard Arnault a fait toutes ses acquisitions, donc ça c'est dans les années 90, jusqu'à la fin des années 90, il a constitué en fait donc un pôle très important de marque de mode et de maroquinerie, ainsi que dans les parfums et dans d'autres domaines. Et dans la mode et maroquinerie, c'était organisé à l'époque sous l'égide d'Yves Carcel, qui dirigeait à la fois Vuitton et dirigeait aussi l'ensemble des autres marques de mode, dans lequel à l'époque il y avait déjà Céline. Dior n'a jamais été intégré parce que Dior était en dehors du groupe, donc c'était géré séparément, et ça faisait pas partie d'LVMH. Seulement dans les 4 dernières années que ça a été intégré chez LVMH. Et donc voilà, Yves Carcel en fait chapeautait l'ensemble de ces marques-là, y compris Vuitton. Et au moment où je suis rentré, en fait, Vuitton ayant pris un tel essor et une telle importance, que Bernard Arnault lui a demandé de s'occuper en fait de Vuitton, et exclusivement en fait, vu la taille, l'importance et les enjeux. Et on a constitué ce qu'on a appelé le Fashion Group. Donc c'était une structure qui permettait de superviser le développement de toutes les autres marques de mode et de maroquinerie du groupe en dehors de Vuitton. Et donc j'ai pris la direction 1 an et demi après être arrivé.
Très bien.
Donc c'est une organisation qui n'existait pas. Elle n'existait pas dans d'autres groupes en fait. Donc on a vraiment créé cette organisation-là. Et
l'idée, c'était quoi? C'était d'avoir un support commun qu'on se partageait avec l'ensemble des marques, ou chaque entité, chaque marque était gérée comme une PME, comme une entreprise à part entière, et il y a quelqu'un qui chapeaute, et c'est Pierre-Yves.
Alors non, les marques sont gérées de façon indépendante et autonome. Ça c'est vraiment le concept, parce qu'il y a assez peu de synergies en fait, hard comme on les appelle dans les affaires de mode. Les fournisseurs sont différents, vous faites pas d'économie d'échelle parce que vous mettez ensemble vos achats. Alors il y a quelques plus exemples. La vraie compétence ou la vraie synergie, c'est la compétence de savoir-faire et de talent. Vous pouvez échanger les talents, ou quand vous trouvez des gens bons dans un certain domaine, vous pouvez les utiliser dans telle marque ou dans telle autre,
parce que
ça, donc c'est, et puis vous avez de la compétence à accumuler. Donc En fait, moi, ce que j'ai mis, c'est surtout, j'ai travaillé sur chacune des marques pour redéfinir la stratégie de chacune des marques et puis mettre en place les bonnes équipes. C'était essentiellement le créatif et le dirigeant, et puis les équipes autour. Ouais. Et donc, on a redéfini des projets qui en fait, n'avaient jamais... Je pense pas eu l'attention nécessaire parce que toutes ces acquisitions ont été faites sur peu d'années et donc vraiment prendre chacune de ces marques et de mettre en œuvre en fait la vision que Bernard Arnault avait, qui était d'avoir un portefeuille divers de marques répondant en fait à la diversité du marché, c'est-à-dire que le marché, les clients ont des goûts et des attentes diverses, donc ils sont intéressés à pouvoir acheter dans des marques qui offrent des esthétiques différentes, des catégories de produits différentes. Donc c'était vraiment sa vision, mais ça veut dire qu'il faut positionner chaque marque de la bonne façon, avoir le bon talent créatif avec la bonne vision, le bon duo avec le management qui permet de mettre ça en œuvre, et puis les bonnes équipes autour. Et donc c'est là-dessus que j'ai beaucoup travaillé. Voilà, donc à des moments plus sur certaines marques que sur d'autres, quand les choses nécessitaient du calage. Bien, et donc on a mis en place tous les projets... que vous avez vu, donc j'ai vu Ricardo Tichy chez Givenchy, Phoebe Philo chez Céline, Jonathan chez Loewe, après avoir investi dans sa propre marque, Umberto et Carole chez Kenzo, on a fait le projet avec Opening Ceremony, donc on a fait tous ces changements.
Que des succès, j'ai l'impression.
Et le truc a vraiment super bien marché.
A explosé.
C'était super.
Et un truc sur lequel j'aimerais bien revenir, c'est la méthode LVMH, la méthode. Même Bernard Arnault, tu disais que tu avais été pris sous son aile pendant un an, deux ans de formation. Qu'est-ce que tu as appris ? C'est quoi les key learnings qu'il faut retenir de la méthode ?
Oh, je crois pas qu'il y ait, ça serait trop simpliste de dire qu'il y a une méthode, hein. Voilà. Et je pense qu'il y a, lui, c'est un talent hors norme à tout point de vue, donc il est hors classe, on va dire. Je crois qu'il y a une expérience, en fait, cumulée dans la mode et dans le luxe. Et en même temps, il y a une ouverture à évoluer. Et c'est ça qui est important, parce que c'est facile d'avoir des recettes à un moment qui marchent et en même temps de s'enfermer dans ces recettes. Donc, je crois que c'est vrai pour tout. C'est-à-dire, faut se dire, OK, qu'est-ce qui est vraiment important dans ces métiers-là et qui est finalement un peu intangible. Et on est quand même dans des métiers où on est dans les métiers de désir et de rêve. Donc c'est toujours le moteur essentiel, en fait. Alors comment est-ce qu'on l'alimente ? On le nourrit. On le nourrit par la qualité des produits. On le nourrit par le storytelling. On le nourrit par l'expérience. On le nourrit par plein de choses. Mais on est dans des métiers ou dans des produits, comme je dis toujours, personne n'a besoin d'une paire de chaussures en plus ou d'un sac en plus ou d'une robe en plus. Donc on est métier qui de séduction, de désir, de rêve. Donc voilà, donc ça doit être alimenté, et ça doit être alimenté en grande partie par les créatifs, parce que c'est eux qui alimentent ce renouvellement continu d'énergie créative, voilà, et donc qui évolue en fonction des moments, des périodes, des tendances, et puis en même temps, c'est des organisations qui sont assez importantes en taille, avec des exigences opérationnelles qui sont fortes, des niveaux de qualité, des niveaux de... Et donc, il faut organiser tout ça de façon très, très professionnelle. Donc, il y a à la fois tout un côté... C'est ça que je trouve assez sympa dans ces métiers. C'est passionnant. C'est à la fois le côté créatif qui, par nature, est pas... vous pouvez pas l'organiser, hein, c'est pas un processus linéaire, la créativité. On va pas d'un point A à un point B, selon un calendrier défini, etc. C'est aléatoire, par nature. Et puis en même temps, à côté de ça, il faut organiser une machine de façon à pouvoir délivrer la créativité. C'est-à-dire que quand vous êtes... si vous êtes un peintre, vous peignez sur un tableau, vous avez besoin de la peinture, d'une toile, etc. Vous n'avez pas besoin d'une organisation. Nous, un designer qui dessine des robes, s'il dessine un prototype et qu'on laisse dans un atelier, il ne se passe pas grand-chose. Il ne se passe même rien du tout. Ouais. Donc, il faut que non seulement ça soit industrialisé, que ça soit fabriqué, que ça soit produit, que ça soit distribué. Donc, il y a toute une organisation et une chaîne qui est assez compliqué à l'échelle de ses affaires maintenant, mais à l'échelle du monde, parce que la plupart de ses affaires sont mondiales, et en même temps, la nécessité d'apporter du jus créatif, du renouvellement, c'est ça qui est assez fascinant, quoi.
Bien sûr. Quand tu choisis un créatif, et même un businessman, enfin le CEO, comment tu fais pour taper juste à chaque fois? Parce que là, sur les deux, trois marques que tu nous as citées, Kenzo, Loewe, Céline, ça a été, en tout cas, a posteriori, t'as l'impression que ça a été dans le mille à chaque fois, quoi. Ça a été un succès fulgurant, au moins d'estime, et même en termes de, alors en termes de business, je sais pas, mais comment est-ce que tu sélectionnes le DA?
C'est pas simple. Bon, c'est vrai que ça a plutôt bien marché dans les différents cas qu'on a pu faire. Alors après, moi, je l'ai fait étroitement avec Bernard Arnault, qui a un jugement incroyable, et Delphine Arnault, qui a notamment monté le prix LVMH, justement pour les talents créatifs, etc. Et j'avais une petite équipe aussi très dédiée sur le recrutement des talents créatifs qu'on avait créé en interne. Je crois qu'ils ont toujours. Mais quand il s'agit des directeurs artistiques, c'est un autre niveau. C'est-à-dire, comme je dis toujours, il y a pas mal de bons talents créatifs. Il y a beaucoup de très bons talents créatifs. Un directeur artistique, c'est un autre. Je vais pas dire que c'est un autre niveau parce qu'il y a pas de jugement de valeur. Ça nécessite des compétences qui sont différentes. Ça nécessite une vision, ça nécessite une personnalité, la capacité à driver les choses. Et puis, vous pouvez avoir quelqu'un qui est très très bon créativement, qui peut être un très bon directeur artistique, mais qui est adapté à certaines marques et pas à d'autres. Parce que les marques ont leur ADN, comme on les appelle, donc elles ont une histoire. Et donc, faut trouver des compatibilités. Et compatibilité, c'est pas... moi, par exemple, au début, j'avais tendance à être un peu littéral. C'est-à-dire que je regardais l'ADN des marques, je dirais, OK, bah, telle marque a tel truc. Et j'avais plutôt tendance à approcher des talents créatifs qui avaient des esthétiques très proches de la marque. Et c'est quelquefois un peu limitant. C'est-à-dire que, parce qu'il faut apporter quelqu'un qui apporte quelque chose. C'est comme je dis toujours, une marque, c'est un peu comme un livre, ça vous écrivez différents chapitres. Donc il faut que l'histoire, elle soit raccord quand vous passez d'un chapitre à un autre. Mais si vous répétez la même chose, vraiment...
On s'embête.
Donc ce que vous cherchez fondamentalement, c'est quelqu'un qui va être capable d'écrire un chapitre d'un livre qui a sa cohérence par rapport à ce qu'il y avait avant, même si la cohérence peut être un moment un peu interpellant. Mais d'ailleurs, comme dans un bouquin, dans le chapitre d'après, vous vous dites, attends, j'ai du mal à avoir le raccord avec l'histoire d'avant. Puis à un moment, paf, les trucs se mettent en place. Donc, quelquefois, on a poussé un peu le bouchon et les gens avaient du mal à avoir le raccord.
Ouais.
Mais il y avait une vraie cohérence à chaque fois. Et puis, il faut quelque chose qui soit comme je dis, dans l'air du temps. C'est-à-dire, la mode, c'est maintenant. C'est-à-dire, c'est la mode dans 10 ans. Je ne vais pas dire qu'on s'en fout, mais c'est pas pertinent. Et la mode, il y a 10 ans, elle est intéressante pour s'alimenter. Mais ce qui est intéressant, c'est d'être pertinent maintenant, c'est d'être dans le moment. Et donc, il faut arriver à trouver des talents créatifs qui à la fois donc, ont cette personnalité, cette vision, ce talent, trouver la bonne adéquation avec la marque, donc à la fois qui soit inspiré par la marque, mais qui puisse écrire un nouveau chapitre, donc qui soit pas enfermé dans l'histoire de la marque, mais qui puisse la réinterpréter, et qu'ils arrivent à la réinterpréter de façon moderne et relevant. Voilà. Donc c'est ça. Donc en fait, on en rencontre un certain nombre, et puis à un moment, c'est l'instinct. On se dit, bah tiens, c'est juste, quoi. Après, je pourrais raconter X histoires sur toutes ces rencontres qui ont à chaque fois été des rencontres. Donc quelquefois les décisions sont faites et ça a été fait très rapidement, quelquefois ça a pris plus de temps parce qu'il y a eu un processus de maturation aussi, parce que certains ont besoin de maturer plus les projets.
Mais on leur demande quand même de créer un projet, enfin d'écrire un projet aussi pour la marque. Comment ça se passe concrètement? C'est que s'il y a 10 entretiens, on rencontre tout le monde.
Non. Ça, c'était pas du tout un truc.
Corporate.
On recrute pas les créatifs par comité. Ça, je pense que ça fonctionne pas.
Ouais.
Donc voilà, moi, je faisais le casting. À la fin, on validait avec Bernard Arnault, Delphine Arnault, en l'occurrence. Mais c'est tout. Donc il y avait pas de. Non. Il y a pas un groupe avec 25 personnes qui sélectionnent. Ça fonctionne pas comme ça.
Mais il faut passer du temps avec lui, etc.
Il faut passer du temps parce qu'il faut comprendre. Il faut comprendre le cheminement créatif. Et puis il faut comprendre les ressorts. Il faut comprendre la personnalité. Alors le projet, c'est intéressant le projet parce que moi je pense que c'est intéressant de travailler sur un projet pour plusieurs raisons. le projet, faire entrer le créateur. Alors ça, c'est vrai d'ailleurs pour un directeur artistique, où c'est vrai qu'on veut recruter un styliste dans une catégorie, dans une marque aujourd'hui, telle qu'on fait chez Tory. On recrute des créatifs, on a un studio qui est assez important, et on demande systématiquement des projets. Et je trouve, c'est évidemment important pour nous, mais c'est important aussi pour le candidat, parce que ça vous permet de vous projeter dans une marque, en l'occurrence, et commencer à réfléchir. Et vous voyez si vous êtes inspiré ou pas, déjà. Si vous commencez, et puis après deux jours, vous n'avez trop aucune idée, ou vous dites, faut mieux se poser la question maintenant qu'une fois que vous avez été recruté. Et donc, vous voyez si vous commencez à être inspiré, parce que vous commencez à rentrer dans la marque, vous commencez à comprendre l'histoire, l'esthétique, etc. Donc, c'est une très bonne façon, je trouve, pour un créatif, de commencer à rentrer dans ce cheminement-là. Et puis, vous rentrez dans un dialogue qui est intéressant, parce que vous commencez... C'est une découverte, en fait, mutuelle. Donc moi je le vois comme ça, je le vois comme étant un dialogue. La réalité, c'est que les projets que j'ai vus, y compris les projets de directeur artistique, tels qu'ils ont été présentés, ont quasiment jamais été ce qu'on a fait in fine.
Ok.
Donc, alors, c'était pas à 180 degrés différent, mais les projets ne sont jamais figés. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, quand moi je suis dans un dialogue, alors donc en l'occurrence à l'époque avec les directeurs artistiques, c'était pas une rencontre, on avait deux trois rencontres qui faisaient aller sur, alors quelquefois c'était plus rapide, à chaque fois c'est des circonstances étaient différentes, mais on voyait l'évolution, parce que ce qui est intéressant, c'est de voir à la fois le projet tel qu'il a été à un moment, on va dire cristallisé, mais les projets les plus intéressants, c'est quand vous les revoyez 15 jours après ou 3 semaines après, il me dit, ah ben tiens, j'ai eu telle idée en plus, ou là je l'ai évolué, j'ai fait évoluer comme ci et comme ça. Et donc vous voyez le cheminement. Voilà. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement le point d'aboutissement, c'est le chemin. Parce que quand vous faites, mais comme toute marque, une marque c'est un chapitre que vous écrivez. Et donc quand vous faites venir quelqu'un comme ça, ou dans une marque comme aujourd'hui avec Tory, est-ce qu'elle construit ? Eh ben, c'est une écriture qui évolue, qui change constamment. Voilà. Alors, qui se nourrit évidemment de l'histoire du passé, de qui elle est en l'occurrence, et on va en parler. Et puis, voilà, qui doit continuer à évoluer. Si elle est figée et si elle se répète, elle devient inintéressante.
Voilà. Le succès d'un recrutement d'un directeur artistique, il n'est pas forcément. Enfin, à quel moment tu te dis ça a marché, j'ai réussi, ou ça n'a pas marché, ça a foiré. Et combien de temps tu te laisses, combien de temps on laisse à un directeur artistique pour que ça transforme réellement ?
D'abord, c'est comment on mesure le succès.
Comment on mesure le succès ?
Alors, à la fin, quand même, le succès, il faut que ça marche, il faut que ça fonctionne. C'est-à-dire que si à la fin, on peut faire des très beaux produits, si tout le monde
est
très, la presse est très excitée, on est excité, mais on n'en vend pas.
Il y a un problème.
Il y a un moment, il y a un problème. Donc, et à l'inverse, d'ailleurs, on peut très bien avoir la presse qui n'est pas très intéressée, et puis que ça fonctionne bien, et que ça soit un succès. Idéalement, l'un alimente l'autre. C'est-à-dire que... mais pas toujours. Et puis, il peut y avoir ça peut prendre un peu de temps. Donc, moi, j'ai vu des projets qui ont démarré tout de suite, et tout de suite, la mayonnaise a fonctionné. Alors elle a fonctionné médiatiquement, c'est-à-dire que voilà, la presse, les gens un peu branchés dans la mode, etc., le petit monde s'est passionné pour le projet, et puis du coup ça s'est transformé avec des produits et puis des succès commerciaux. J'ai vu l'inverse, j'ai vu des projets qui ont pris plus de temps à maturer parce que les gens ne les comprenaient pas forcément, ou parce que le créatif avait besoin un peu de temps. J'ai vu des projets commercialement qui étaient très forts créativement, mais on avait besoin de s'organiser pour être capable de mettre tout ça en œuvre, comme j'évoquais tout à l'heure, pour en faire des produits avec un niveau de qualité, un niveau de commercialité. Donc j'ai vu tous les cas de figure. Moi, on juge pas sur 6 mois, 1 an, mais on juge pas sur 5 ans. Voilà. Ouais. Donc, moi, je pense qu'après, vous voyez, 18, 24 mois, tu vois, si t'as pas vu que le truc commence à fonctionner d'une façon ou d'une autre, et puis t'ajustes aussi, on fait des erreurs. Tous les projets sont ajustés. Parce que voilà, on apprend, on essaye. C'est comme il y a les défilés, même pour les designers les plus établis, et ben il y a des défilés qui sont meilleurs que d'autres. À chaque fois, on t'a pas dans le mille, t'as tout le temps, systématiquement. Il y a des moments où voilà, tout le truc se met à fonctionner parfaitement. Et puis il y a des moments où ça fonctionne bien, mais voilà, c'est pas aussi parfait.
Voilà. Ouais. L'autre personne que tu recrutes qui est essentielle, c'est le CEO. Pareil, là, tu vas chercher quel type de profil, comment tu les recrutes, qu'est-ce qui fait qu'un CEO est un bon CEO et comment est-ce qu'on fait en sorte que le duo soit gagnant et qu'il y ait une bonne entente et que l'équipe déchire tout, quoi.
Oui, ça c'est l'autre. Alors ça c'est l'autre, c'est une autre partie du Pulse pour arriver à faire fonctionner ça. C'est ce, un peu ce duo créatif management. Alors bah, les CEO dans la mode, ils doivent être à la fois c'est les caractéristiques des bons dirigeants, quoi. Donc ça on peut philosopher sur voilà ce que c'est qu'un bon dirigeant. Mais bon, il faut que ça soit quelqu'un effectivement qui soit des bons meneurs d'équipe, qui ait une vision claire, qui ait de l'intégrité, qui soit dans le concret, et qui sache prendre des décisions. Voilà tout ce qu'on trouve en fait. On va dire dans les bons dirigeants d'entreprise qui ont du leadership. Donc ça, je vais pas faire la liste de tous les critères du leadership. On peut le trouver dans tous les bons bouquins. Après, qu'est-ce qui fait que c'est spécifique dans la mode? Dans la mode, comme je disais tout à l'heure, on est par nature. En fait, je pense que c'est dans la mode et dans tout univers créatif. C'est-à-dire dans toute activité, dans tout business, qu'il y a une dimension créative. Mais je pense que c'est vrai quand je parle avec des copains qui travaillent dans le cinéma, par exemple, dans la musique, ou dans des domaines où le produit est développé par des créatifs, et donc pas par des ingénieurs qui développent de la technologie, par exemple, mais par des créatifs. Même si jamais, par exemple, dans les jeux vidéo, mon fils a fait un stage dans une boîte de jeux vidéo, il y a énormément de créatifs. Il y a la technologie, mais il y a des créatifs. Donc il y a beaucoup de choses, il y a des studios, un peu comme dans nos métiers. J'ai trouvé ça assez intéressant, le parallèle. Donc c'est plutôt ce qui fait la spécificité de diriger des affaires qui ont un contenu créatif fort. Et pour ça, il faut déjà avoir la passion du contenu du produit et de la créativité. Et vraiment voir la vraie valeur du créatif. Moi, comme je dis toujours, le créatif, c'est celui qui met le vent dans les voiles. Alors, quand vous faites de la voile, vous savez pas trop faire de la voile. Quand il y a du vent, c'est stressant. Vous allez dire, voilà, le bateau commence à pencher, etc. Quand vous devenez un peu aguerri, vous aimez qu'il y ait du vent, parce que le vent, ça fait avancer le bateau. Mais faut apprendre à naviguer, faut apprendre. Donc vous utilisez en fait la créativité de façon à faire avancer le bateau. Mais pour ça, il faut avoir une maîtrise en fait de la compréhension du métier créatif, à la fois dans ses dimensions humaines, mais aussi dans ses dimensions pratiques, notamment la connaissance du produit. Ça, je pense que c'est indispensable, et du développement produit. Je pense que c'est difficile d'être un CEO si on n'est pas passionné par le produit au sens même technique du produit. Moi, par exemple, quand je suis rentré chez VH, une des premières choses que j'ai fait, c'est d'aller voir tous les ateliers de la maroquinerie, des chaussures, voir les studios, etc. De façon, je vais pas dire que je suis un super expert de tous les produits, mais je connais la technique des produits, je connais la construction, je connais les matières, et donc je peux dialoguer avec un créatif, non seulement conceptuellement sur une direction créative, mais aussi sur un produit. Et quand je vois un produit, je sais s'il est juste ou pas, je sais s'il a été bien fait ou s'il n'a pas été bien fait. Donc, et ça nécessite la passion, ça nécessite le temps et l'apprentissage. Parce que quand vous avez cette connaissance technique du métier, vous pouvez dialoguer avec les créatifs parce que vous parlez la même langue d'une certaine façon. Et puis après, il y a une dimension dans la mode où comme on s'adresse directement au client final, il faut avoir cette passion pour le client final. Donc ça se traduit beaucoup par la distribution, le retail historiquement, donc la passion des boutiques, d'aller faire le tour du monde pour aller voir les emplacements, etc. Donc moi j'ai fait ça pendant des années. Comme je dis toujours, je connais plus de villes en Chine que je connais de villes aux États-Unis. Je connais, je crois, 25 villes en Chine, j'en connais moins aux États-Unis, même après y avoir vécu maintenant à plein temps depuis 4 ans. Donc il faut vraiment être sur le terrain, aller voir. Alors ça se traduit maintenant par le digital, l'e-commerce, et donc cette passion de ce contact avec le client et de ce dialogue. Et donc voilà, je pense que c'est ces éléments-là. Et puis après, c'est donc cette complémentarité du créatif et du CEO est déterminante. Et pour ça, il faut qu'ils soient... Il ne faut pas qu'ils empiètent l'un sur l'autre. C'est-à-dire que chacun a son rôle. Par contre, chacun se nourrit l'un de l'autre. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas réussir l'un sans l'autre. Quand je dis l'un sans l'autre, ils ne sont pas que tous les deux dans une entreprise. Mais on peut pas réussir, les créatifs peut pas réussir sans l'organisation, l'organisation peut pas réussir sans la partie créative. Donc ce qui est vrai au niveau du directeur artistique et du CEO est vrai sur l'ensemble de l'organisation. Mais c'est eux qui donnent le ton. Et donc l'entente à ce niveau-là est déterminante parce qu'elle elle organise en fait le dialogue productif et constructif à tous les niveaux. Alors est-ce que c'est facile tous les jours? Non. Est-ce que ça fonctionne à chaque fois? Non. Parce que c'est des équilibres humains. Voilà.
C'est un vrai couple.
Donc puis chacun a ses personnalités, chacun a ses horizons de temps, chacun a ses objectifs, etc. Et ce qui est important, c'est le dialogue. Voilà. Et donc c'est la confiance. La confiance, ça c'est indispensable. C'est-à-dire que moi, ce que je dis, j'ai toujours au CEO, c'est ne faites jamais quelque chose dans le dos du créatif. Et souvent, parce que quand ils sont pas expérimentés, ils savent pas trop comment traiter avec un créatif qui peut paraître quelquefois un peu irrationnel et compliqué à gérer, et qu'ils ont besoin pour le business de faire ceci, cela, ils ont tendance à dire ok, je vais me débrouiller, je vais rajouter ça dans la collection, ou je vais faire ce magasin sans le dire, parce que, et ça c'est catastrophique parce que ça casse la confiance. Donc moi, je leur dis toujours, et c'est ce que je fais aujourd'hui, et je le fais à tous les niveaux, c'est dites-leur de quoi vous avez besoin pour être efficace et faire fonctionner, en fait, votre organisation. Et donc, mettez le sujet sur la table, et vice-versa. Pareil pour le créatif, il vient en permanence vous dire, moi, j'aimerais développer ceci, cela, ou j'ai besoin de pouvoir développer des robes qui ont telle caractéristique, on n'est pas bon flou, on n'est pas bon... Et donc, vous passez votre temps, et c'est là où on revient sur ce que j'ai appris chez McKinsey, je trouve, c'est qu'en fait, on fait de la résolution de problèmes en permanence. En fait, ce qu'on passe dans un dialogue avec un créatif, c'est qu'en fait, on résout des mini-problèmes tout le temps. Prendre un problème qu'un créatif et le résoudre, c'est lui enlever de l'anxiété. Par nature, un processus créatif est un processus un peu anxiogène. Et donc, un des rôles du CEO, c'est pas d'être le psychologue du créatif, mais c'est de résoudre des problèmes. C'est de l'aider, en fait, à réaliser son potentiel créatif le maximal. Voilà, c'est vraiment ça, son rôle. Et donc, pour ça, il doit créer les conditions. Les conditions de la confiance, les conditions du support, les conditions de l'organisation, etc. Alors, évidemment, dans un dialogue qui par rapport au projet tel qu'il a été défini. Mais c'est vraiment ça, le rôle c'est vraiment ça, le rôle du CEO.
Et toi, ton rôle, quand tu travailles avec une marque comme ça, tu parles plus avec le CEO ou avec le créatif?
Avec les deux.
Avec les deux. Parce que toi, t'as plus un physique de CEO que de créatif. Enfin, ce que je veux dire, c'est que par nature, t'as plutôt tendance à parler avec un CEO, non?
Donc, c'est-à-dire que d'abord, aujourd'hui, je parle avec mon créatif parce que, en plus, c'est mon femme, épouse. Ouais. Mais non, j'ai en fait, mais alors ça, c'est vraiment un peu le hasard. Hein. C'est vrai que j'ai développé. Je pense que, à nouveau, c'est un peu mon histoire chez LVMH. Quand je suis rentré, j'ai commencé à travailler là-dessus. Et peut-être que je devais avoir ça en moi. Parce qu'à nouveau, j'ai repensé à cette... quand je suis rentré chez LVMH, vraiment par hasard, parce que pendant toutes les années avant, j'ai pas fait de mode. J'ai repensé à les dessins que je faisais et un peu cet intérêt que j'avais. Et j'ai vraiment été passionné par la créative et les créatifs. Je trouve leur personnalité vraiment intéressante. Je trouve je suis plus stimulé, rien de caché, de parler avec un créatif que de parler avec un CEO quand j'étais chez LVMH ou le côté business. C'est beaucoup plus stimulant, beaucoup plus intéressant. Alors, ça veut pas dire que l'autre n'est pas intéressant. Et donc, j'ai pris beaucoup de plaisir. Et je prends beaucoup de plaisir à travailler avec nos équipes créatives. J'ai été très impliqué. C'est pour ça que j'étais dans tous les jurys créatifs. J'étais à l'ANDAM. J'étais deux fois président du jury de l'ANDAM. Okay. On a monté le prix LVMH avec Delphine. J'étais dans le CFDA aux États-Unis, dans l'incubateur. Donc, j'ai toujours été très intéressé par être... à travailler avec des créatifs. Donc là, on a parlé directeur créatif ou artistique, mais je voyais la plupart des équipes créatives.
Designer.
Parce que ça vous donne le pouls, en fait, de ce qui se passe. Ça vous donne le et puis ça vous donne l'énergie.
C'est stimulant, bien sûr.
Donc... Donc voilà, c'est vraiment ce mélange du business et de la créativité que je trouve assez passionnant. Voilà.
Et comment tu manages les gens? Est-ce que tu manages d'ailleurs, est-ce que, enfin, oui, t'es, quand t'es le patron, tu dois manager les gens et tu dois leur donner de la perspective.
Alors,
etc.
Aujourd'hui, maintenant, donc j'ai encore évolué parce que donc on a parlé de grands chapitres. Donc, j'ai fait 12 ans, comme je dis, c'est un peu mon cycle. Et donc il y a en 2019. Donc c'était en 2019, j'ai rejoint début 2019, donc j'ai rejoint Tori, mais on s'est rencontrés en 2013 ou 2012 ou 2013 la première fois. J'étais donc chez LVMH et parce que je regardais en permanence les marques qui étaient intéressantes et qui se développaient rapidement dans notre secteur d'activité. Et il n'y en a pas beaucoup parce qu'il y a beaucoup de gens qui essaient de lancer des marques, mais des marques qui réussissent, il n'y en a pas beaucoup. Et donc je voyais ce succès incroyable. Parce que déjà à l'époque, elle avait en 10 ans, elle avait fait le plus gros succès de l'histoire de la mode de ces 20 dernières années. Les gens ne réalisent pas en Europe, mais elle avait atteint 1 milliard de chiffre d'affaires en 10 ans. Inégalé, je crois que personne n'avait jamais fait ça, en tout cas clairement dans les 20 dernières années personne ne l'avait fait. Et clairement en Europe il n'y a aucun équivalent d'une marque qu'elle avait démarré elle-même dans sa cuisine avec 3 personnes. Et donc moi évidemment comme je regardais en permanence les affaires qui marchaient bien et qui se développaient etc, j'étais très intrigué par à la fois son succès économique mais au-delà de ça par les ingrédients en fait de succès. Nous on a essayé de lancer des marques, moi là où j'étais chez LVMH avant, on a aidé beaucoup de designers, on a pris des participations. C'est très compliqué, c'est-à-dire quand on parlait de directeur artistique, qu'est-ce qui fait un bon directeur artistique, comme je dis il y a beaucoup de très bons créatifs, il y a très peu de très bons directeurs artistiques, mais des gens qui sont capables de créer leur propre marque avec succès, c'est vraiment très difficile, très rare et presque à un autre niveau. Et donc j'étais assez fasciné. Donc voilà, on s'est rencontrés. On envisageait d'ailleurs de prendre une participation dans son affaire avec LVMH. Et puis voilà, notre relation a évolué. Donc on est devenus amis, puis plus qu'amis. Et donc on a décidé de garder les choses séparées. Et donc je suis resté chez LVMH jusqu'à un moment où j'ai décidé d'évoluer dans ma vie. On a décidé de se marier. Et donc voilà, j'ai décidé de venir aux États-Unis. Et elle m'a convaincu de travailler avec elle. J'étais pas convaincu à l'origine, pas parce que j'étais pas passionné par sa marque, puisque on s'était rencontrés justement parce que je trouvais que sa marque était particulièrement intéressante. Mais parce que je me suis dit, on a parlé de CEO et de designer, donc moi ça je comprends bien comment ça fonctionne, mais là c'est une autre dimension. D'abord, elle était CEO et designer avant que j'arrive, donc déjà elle faisait les deux, ce qui est là aussi
incroyable
à l'échelle de la marque, parce que déjà à l'époque on avait 4000 personnes quand je suis rentré, quand j'ai rejoint la société, donc c'est déjà très important. Donc déjà moi ça me paraissait complètement infaisable déjà ce qu'elle faisait, par rapport à ce que moi j'avais vu et ce que j'avais mis en place ailleurs. Et puis en plus elle a fondé sa propre marque, donc c'est pas comme si on regarde la DNA d'une marque dans le passé, on se dit qu'est-ce que pensait Christian Dior, on va essayer de faire la version moderne de ça, ou Hubert de Givenchy ou que sais-je. Là elle est la fondatrice, donc c'est l'extension en fait de sa personnalité. Et puis en plus c'est mon épouse maintenant, donc là il y avait beaucoup de dimensions. Donc j'ai commencé à un peu travailler sur la société, l'aider sur certaines choses quand j'avais décidé de me relocaliser aux États-Unis, donc de quitter LVMH. Et puis je me suis à la fois passionné évidemment pour la marque, et puis j'ai trouvé que notre façon de fonctionner et de travailler ensemble était très riche, très intéressante, et rajoutait encore même une autre dimension par rapport à ce que j'ai décrit. C'est-à-dire que je vous ai décrit CEO designer, et forcément on a ça, puisque en fait en venant je lui ai donné la possibilité d'avoir le temps de consacrer à la créativité qu'elle n'avait pas vraiment eu au cours de ces dernières années. Elle l'a eu au début, parce que comme je dis toujours, une marque réussit par sa créativité, par le produit, vous réussissez pas par le business. Le business c'est la conséquence. Donc ce qu'elle a créé en 2004 était extraordinairement visionnaire. Non seulement le produit était juste, mais la façon de le mettre en œuvre était juste. Elle a lancé de l'e-commerce avant tout le monde, elle a lancé un blog avant tout le monde, elle avait le Tory Daily à l'époque où personne ne faisait ça. Alors, je parle même pas dans le luxe et dans la mode, ça n'existait pas, l'e-commerce personne n'en faisait. Elle a lancé sa fondation, donc avec une vocation on va dire sociétale au cœur de la marque, dès le début. Alors que tout le monde lui disait, mais attends, la philanthropie et le business, ça va pas ensemble. Lance ta marque et du succès, puis à l'américaine, tu la vends, puis après, bah, tu donnes l'argent, ouais. Voilà, tu partages. Et elle dit, non, je veux que ça soit, ça fasse partie du projet. Ouais. Et plus la société réussira, plus je pourrai contribuer. Mais chaque client, du coup, en achetant un produit, va contribuer, en fait, à, en l'occurrence, renforcer Women's Empowerment, c'est vraiment tout ce que l'on peut faire pour, accompagner les femmes dans le développement de leurs projets, de leur autonomisation, de la non discrimination, dans l'equality pay et tout ce qui fait que voilà, les hommes et les femmes ont la même valeur et peuvent réaliser leurs projets de la même façon à l'échelle du monde. Moi, je croyais qu'on était déjà là, mais en l'occurrence, c'est pas le cas dans plein de domaines.
Bien sûr.
Par exemple, dans le cas du financement, dans notre fondation, on finance en fait les entrepreneuses. Vous allez voir la banque ou le fonds de private equity, je crois, finance à 95% des hommes, et pas des femmes. Donc, donc ça va bien au-delà d'avoir les mêmes salaires, de monter dans les comités de direction, etc. Ça touche tous les domaines. Donc, pour revenir à, c'est ce qui était à la fois, au-delà de ce choix personnel, de se marier et puis de vivre aux États-Unis, etc. J'ai trouvé assez passionnant de pouvoir, avec Tori, pouvoir mener ce projet et écrire les chapitres, des nouveaux chapitres sur quelque chose qui a eu un succès, absolument incroyable, et qui est une marque qui est en écriture. C'est-à-dire que toutes les marques sur lesquelles moi j'ai travaillé chez LVMH, c'était des marques historiques. À part Jonathan, J.W. Anderson, sur lequel j'avais investi sur sa marque, mais qui est plus petite. Mais sur le reste, que ce soit Kenzo, Givenchy, Céline, Loewe, toutes ces marques, Pucci, etc. Toutes ces marques ont été créées il y a 40 ans, 50 ans, 60 ans. Donc c'est des marques historiques qu'on anime en permanence pour remettre du jeu créatif et du développement. Alors que là, on est dans l'écriture. Donc c'est comme travailler avec Hubert de Givenchy à l'époque, ou avec Christian Dior à l'époque, ou avec Kenzo Takada à l'époque. Travailler avec Tori, c'est quelqu'un qui a créé sa marque, mais qui est en train de l'écrire. Voilà. Ouais. Donc, c'est assez génial. Il n'y a pas l'équivalent ni aux États-Unis ni en Europe. Et le faire à cette échelle, parce qu'il y a des projets avec des fondateurs qui sont là, mais qui ont une échelle qui est beaucoup plus petite. Donc, nous, on a, par le succès qu'elle a créé, on a 6000 personnes, on est une affaire assez importante, 350 boutiques, etc. Donc on a les moyens, l'échelle pour pouvoir faire réaliser des belles choses, parce qu'il faut quand même des moyens pour faire des choses, tout en étant quand même, on est plus petit que les très 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 grosses marques, donc ça nous donne cette agilité.
Mais c'est quoi l'ambition derrière, quand tu arrives dans une marque qui fait déjà 1 milliard et qui a X centaines de boutiques, plein de collaborateurs, etc. Toi, tu arrives là, tu commences par quoi? Qu'est-ce que tu écris avec Tori?
L'objectif financier, c'est jamais un objectif. Donc, on s'est jamais dit, on va faire 1,5 milliard, 2 milliards, etc. Donc, on est une société privée, donc je vous donne des ordres de grandeur, mais en fait, on est beaucoup plus gros que ça maintenant. Et voilà, on gagne, la société fonctionne très bien, etc. C'est pas ça l'ambition. L'ambition, pour moi, l'ambition très personnelle, c'est de donner à Tori les moyens de pouvoir réaliser son rêve créatif. Voilà. Son rêve, évidemment, entrepreneurial, ce qu'elle a déjà fait, bien au-delà. Voilà. Mais de pouvoir déployer son talent créatif. Voilà, je pense que c'est quelqu'un qui a un très grand talent créatif. Et j'ai travaillé avec beaucoup de créatifs. Alors, chacun est différent, chacun a sa façon de travailler. Chacun. Moi, j'en ai vu qui font des sketchs, et puis j'ai vu des gens qui ne savent pas dessiner ou qui ne dessinent pas. J'ai vu toutes les façons de travailler, tous les créatifs. J'ai fait venir Umberto et Carole, qui n'avaient jamais fait un défilé à Paris, chez Kenzo, par exemple. Et Tori a un talent très particulier, un talent créatif très particulier, parce qu'elle arrive à connecter, en fait, non seulement le produit, mais sa marque, son histoire. Elle est aussi la meilleure ambassadrice de sa marque, de par sa propre histoire.
Bien sûr.
Elle connecte ses univers personnels qu'elle intègre dans la marque. Et donc, et avec une formidable capacité de renouvellement. Et donc, moi, mon, Mon ambition, c'est de lui donner, en fait, en gérant l'affaire et donc en la dégageant de beaucoup de choses opérationnelles, quel est le temps, l'attention de pouvoir
la bande passante, ouais.
Voilà, se renouveler créativement, parce que il faut se renouveler créativement. Sinon, vous avez des cycles, hein, comme dans le management, bah après 5, 7 ans, 8 ans dans un job, vous dites bon. Moi, je l'ai vu, j'ai vu les cycles, hein, chez les créatifs. J'ai vu des cycles, les gens disaient les cycles de 5 ou 10 ans. Non, si vous vous renouvelez, prenez Karl, il est resté 30 ans chez Chanel et 50 ans chez Fendi. Donc pour moi, il y a aucune, c'est votre capacité à vous renouveler.
Et ça veut dire quoi, se renouveler?
Se renouveler, c'est d'explorer des nouvelles directions, c'est de là où vous en êtes aussi. C'est par exemple pour Tori, c'est très intéressant parce que elle a créé sa marque en pensant à ce qui lui manquait dans sa garde-robe. Donc elle s'est dit, moi je regarde ma garde-robe, il me manque tel et tel truc. J'aime bien aussi les marques couture, etc. Mais je trouve que quelquefois les produits sont très chers, donc je vais essayer de faire quelque chose aussi qui est un prix qui est plus raisonnable. Et puis elle était influencée par à la fois son histoire personnelle, les voyages. Donc elle a fait un peu ce cocktail-là. Mais quasiment tout ce qu'elle faisait était les produits qu'elle dessinait, on va dire pour elle-même et par extension pour les clientes qui partageaient la même esthétique et le même goût. Forcément, 15 ans après, et avec la taille de la marque, ce qu'elle continue à dessiner et à inspirer, c'est que des produits qu'elle aime, sinon elle quand vous avez votre nom dessus, vous voyez, le niveau d'exigence est élevé. Mais elle porterait pas forcément tous les produits. Donc elle pense aussi, quand elle dessine ou quand elle crée des produits, aux petites copines de ses fils qui ont 25 ans ou 30 ans, à ses belles filles qui ont 25 ou 30 ans. Donc elle étend son univers en termes de et puis on a des clients partout dans le monde.
Bien sûr.
Donc c'est elle il y a à la fois un côté c'est intéressant parce qu'elle dit c'est ma collection, mais dans les 3 dernières années c'est presque mes collections les plus personnelles. Et je lui dis c'est intéressant parce que tu dis ça en même temps c'est des collections que tu fais pour le monde encore plus que des collections que tu dessines pour toi. Elle me dit oui, mais j'ai l'impression que je peux mettre encore plus de ma personnalité créative. Et donc c'est ça qui est assez exaltant, je trouve. C'est que ce nouveau chapitre lui permet de se renouveler créativement. Donc on a par exemple dans les 3 dernières années redessine tous les produits qu'on avait. Alors on a les produits iconiques qu'on a depuis de nombreuses années, que ce soit dans les chaussures ou dans les sacs, plus que dans le prêt-à-porter par nature, puisque il y a des produits plus permanents, on va dire. Et ils ont tous été redessinés, modernisés, la qualité, on a énormément amélioré la qualité. Et moi, je connais évidemment bien les fabricants. Je connais, puis on a fait venir des designers, et puis on a développé des capacités de développement produit, voilà, qu'on a beaucoup en Europe, peut-être un peu moins aux États-Unis. Donc on a fait ça. Et puis on a apporté plein de nouveaux produits. Donc il y a un vrai jus créatif, un vrai élan créatif. Donc l'ambition, c'est vraiment c'est une belle aventure, on va dire d'abord créative, entrepreneuriale et humaine. Donc créatif, c'est ce que j'ai évoqué, et donc le fait que Tori puisse exprimer créativement avec ses équipes sa vision créative, c'est exaltant. C'est une aventure entrepreneuriale. On est une société privée, qu'on contrôle, mais avec une aventure où on a des équipes qui font complètement partie de notre aventure à plein d'égards, sur la façon dont on les associe au succès et au développement. Il y a dans la société, il y a des gens qui ont toute l'équipe qui a démarré avec Tori dans la cuisine, ils sont tous là. Plus des gens au fur et à mesure qu'on a amené, qu'on a développé, etc. Donc, avec une culture qui est très personnelle. Donc c'est une aventure entrepreneuriale et une aventure humaine. Ouais. Voilà. Et forcément, pour nous, c'est quelque chose de très dans la mode. Il n'y a pas beaucoup d'exemples d'un mari et d'une femme qui travaillent ensemble. Donc c'est le hasard qui nous a amené à faire ça.
Et comment tu fais en sorte que ça fonctionne bien et que parce que moi aussi je travaille avec ma femme. Tu vois, ma femme est directrice artistique et moi je gère les affaires.
On est dans la même configuration.
Pas au même level, mais. Comment tu fais pour
échanger nos expériences respectives.
Mais justement, comment tu fais pour faire en sorte de préserver les deux, de préserver le business et de préserver ton couple, parce que finalement en fait, on parle tout le temps. Il y a pas de coupure, il y a pas de trêve, quoi. On parle tout le temps du business, autant quand t'es à la maison que quand t'es au bureau.
Oui et non. Oui, parce que c'est une telle extension de sa vie et de sa personnalité que voilà, c'est complètement partie prenante pour elle. Et puis les choses sont très voilà, beaucoup de ses inspirations, c'est la façon dont elle vit, là où elle voyage, les maisons et notre environnement. Donc forcément, c'est assez imbriqué. Mais en même temps, on arrive à bien gérer. Et puis c'est pas un job, quoi.
C'est une passion.
C'est une passion. Et donc les choses sont très imbriquées de façon très organique. Mais non, on a plein d'autres passions, le sport, les voyages. On a des amis formidables. Et puis surtout, on a des enfants qui nous occupent, parce que même s'ils sont un peu grands, maintenant, ils nous occupent beaucoup. Ouais. Et voilà. Et puis avec eux, on parle pas de la marque et la société, les projets. Donc on parle d'eux, on parle de leurs projets. Voilà. Et donc ça nous donne plein d'autres sujets pour échanger.
Bien sûr, ouais. Voilà. Comment tu restes excité, toi, par ton aventure entrepreneuriale? T'as l'air passionné tout le temps, autant, alors que t'as 20 ans, 30 ans de carrière bientôt dans les pattes. Comment est-ce qu'on reste au top du game, et comment est-ce qu'on reste excité et passionné par ce travail?
Parce que c'est d'abord parce que je trouve ce secteur-là passionnant, ce domaine d'activité passionnant. Bon, après, je pense aussi un peu à ma personnalité. J'aime bien. Si je faisais des choses qui ne me passionnaient pas, je ne les ferais pas déjà. Mais donc, voilà. Et je trouve qu'il y a des tas de choses passionnantes. Moi, si je pouvais avoir plus de vie, je signerais pour. Je trouve qu'il y a tellement de choses intéressantes à faire. C'est vrai que je suis un peu interpellé quand les gens ont du mal, tous les jeunes, à trouver un peu leur voie, etc. Et c'est vrai que moi, j'ai eu énormément de chance dans mon parcours. J'ai travaillé avec des gens passionnants, dans des domaines passionnants. Il y a une ou deux fois, je me suis trouvé dans des configurations, je l'ai évoqué au début, dans la banque, où voilà, c'était pas mon truc, et puis j'ai changé à ce moment-là, pour vraiment être dans les domaines qui m'ont passionné. Je trouve que c'est assez génial avec la créativité, travailler dans des domaines créatifs, c'est que ça bouge vite. Alors je pense qu'il y a d'autres domaines comme ça, la technologie par exemple, c'est un domaine où les choses peuvent bouger relativement vite. Alors pas la technologie à long terme, dans les voitures j'imagine ça prend un peu de temps de développer une voiture, mais nous dans nos métiers, ce qui est assez génial, c'est que en 6-12 mois, vous changez l'offre des magasins, ou l'offre sur le site internet. C'est-à-dire, vous reprenez les collections, vous les redessinez, vous changez les fournisseurs, etc. Mais donc, vous pouvez arriver sur un cycle qui est assez court, à faire des changements qui sont significatifs. Vous pouvez changer vos visuels, vos campagnes, etc. Donc, alors après, il y a une certaine inertie de marque, une certaine perception de la marque. Mais moi, je suis arrivé à changer le cours de marque qui était considéré comme pas intéressante, morte. Voilà, en ayant le bon projet, les bons produits. Tout commence par le produit. Hein. Donc après, vous pouvez mettre plein de marketing autour, à d'histoire, etc. Le produit, c'est le cœur de tout ce qu'on fait. Voilà. Donc moi, c'est ce que je dis toujours à nos équipes, et Thorry l'a construit là-dessus. C'est le produit, c'est... On parle de NFT, de métaverse, etc. À la fin, nos clients, ils achètent un produit qu'ils portent, qui est fabriqué à la main, parce que c'est comme ça que c'est fait. Et donc, ça, c'est l'attention principale. Après, on met des beaux magasins autour, des super sites internet, des visuels, du narratif, etc. Mais c'est quand même ça, le cœur du métier. C'est pour ça que j'évoquais, pour être crédible comme CEO, il faut connaître le produit, il faut connaître la technique du produit. Moi, je pense que sinon, on est à la superficie des choses. Mais le produit, il change tout le temps. Moi, quand je viens toutes les semaines au bureau, je vais voir les ateliers, les studios, les défilés par nature, on en a tous les 6 mois. Donc, c'est un animal vivant, une marque de mode. Extraordinairement vivant. Vivant par, évidemment, les personnes, mais vivant par le produit. Et avec un rythme qui est rapide. Donc, ça peut donner le tournis. C'est-à-dire que des gens qui n'aiment pas le changement peuvent être... Et ça rejoint un peu la personnalité du CEO ou du management. C'est-à-dire que si vous avez l'angoisse des choses qui changent tout le temps et pas la passion du produit, ça devient insupportable. Parce que vous dites, vous avez l'impression que le truc n'est jamais stable. C'est-à-dire que vous dites, ah ouais, non, moi, j'arrive jamais à rien à organiser, on respecte jamais les calendriers, le process n'est pas suivi, moi, quand j'entends ça. Mais en même temps, il faut des calendriers, il faut un process, etc. Ouais. Mais si vous ne voyez pas la valeur à un moment que... on change des choses, on peut faire des et ça devient difficile. Donc il faut une personnalité qui a une personnalité à la fois organisée, mais qui aime le changement.
Ouais, très souple.
Et
ouais.
Voilà, il faut avoir ça. Et après, comme je dis, j'ai pris quelques analogies. J'ai pris l'analogie du bateau avec le vent. Mais c'est une entreprise, c'est une bicyclette. Il faut pédaler. Vous arrêtez de pédaler, vous tombez. Donc, il faut continuer à pédaler. Mais il faut y avoir du plaisir. Si vous dites, ça change tout le temps. Et puis il y a la crise, puis il y a le Covid, et puis il y a le truc, etc. Bah oui, c'est... Alors,
c'est la vie.
Ça, c'est l'avantage d'avoir plusieurs années d'expérience. C'est que moi, j'ai vu des crises. J'ai vu 2000, 2001, j'ai vu 2008, j'en ai vu.
On a tout le temps.
Voilà. Et il y a un certain nombre de choses. Elles sont toutes différentes parce que... Mais les crises, il y en a tous les 5, 7 ans. Vous gérez en vous disant il va en avoir une. Donc, vous avez intérêt à anticiper à tout point de vue dans votre structure de bilan, mais aussi dans vos produits, dans vos équipes, dans tout ça. Mais ce que l'on voit, c'est que à chaque fois qu'il y a des crises, c'est des opportunités. Notamment nous quand on a fermé le bureau en mars 2020 au moment du Covid et tout ça, et on est allé à Long Island dans une maison dans les Hamptons, on a travaillé là pendant 2-3 mois, donc c'était pas facile, c'est une boîte privée, 300 magasins fermés, il y avait juste l'e-commerce. Vous dites c'est comme une start-up, c'est vous regardez combien de cash vous avez à la banque, combien les lignes de crédit que les banquiers vous avaient donné, parce que vous pouvez pas en avoir plus, puis vous dites quand j'aurai consommé tout ça, qu'est-ce que je fais, quoi. Bon, heureusement, les choses sont reparties, d'abord en Chine, et puis après aux États-Unis, et puis on a pu gérer ça de façon organisée, efficace. Mais à côté de ça, sur lequel moi je passe l'essentiel du temps, avec Tori, ce que je lui dis, à chaque fois qu'on sort de crise, à chaque fois, il faut être le plus innovant. Le meilleur exemple de ça, c'est Christian Dior, sorti de la guerre, New Look, parce que les gens, quand ils sortent des choses, ils veulent avoir des choses.
La fraîcheur. Ouais.
Et la tendance naturelle, c'est de couper le développement, parce que vous vous retrouvez avec plein de stocks, vous vous dites, et puis je vais utiliser tous ces stocks-là, et je vais les pousser jusqu'au moment. Donc, vous coupez le développement, vous coupez l'innovation, et quand vous sortez de trucs, vous avez les produits, les queues de stock que vous avez gardées, et que vous essayez de revendre pendant une à deux saisons, trois saisons. Et donc, les marques qui ont bien fonctionné, c'est les marques qui ont été pendant la crise, ou qui ont mieux résisté, c'est les marques qui ont été très agiles en s'ajustant et qui étaient bien préparées aussi. Donc c'est sûr que si vous êtes bien organisé, vous avez des clients fidèles, vous avez des produits qui sont des carry-overs, c'est-à-dire des produits iconiques. Et puis nous aussi, on en a pas mal de produits iconiques, donc ça a aidé. Et puis on était bon sur la partie plus casual, donc ça a bien marché. Donc ça nous a permis de bien résister. Et puis au moment de la reprise, on est arrivé avec plein d'innovations. C'est le moment où on a sorti notre team monogramme qui est notre jacquard, donc sur lequel on avait travaillé depuis 2 ans. On a sorti des sneakers qu'on n'avait pas, donc les Good Luck, et plein de produits qui ont eu énormément de succès et qui ont énormément de succès. Mais ça, c'est l'expérience, c'est-à-dire que vous dites finalement la crise, elle fait partie de la vie d'une entreprise. Je vous le décris maintenant, c'était pas facile.
C'est compliqué.
Je regarde toujours les choses en disant il faut pas surréagir, mais il faut pas sous-réagir. C'était en tant que dirigeant, si vous surréagissez au truc, vous surréagir au moindre truc. Mais en même temps, si vous êtes trop lent à vous adapter, le marché va pas vous laisser, ou l'environnement va pas vous laisser l'occasion de vous récupérer sur la suite. Donc il faut trouver la bonne vitesse d'ajustement. Trouver les bons temps, et puis surtout garder les équipes, les motiver, etc.
Et c'est quoi le secret de ça? C'est de leur donner la perspective, c'est d'être à l'écoute. C'est quoi ton secret?
Je sais pas si j'ai un secret, faudra leur demander. D'abord, je pense qu'il faut si on est passionné, je pense qu'on a on s'entoure de gens qui sont aussi passionnés, parce que sinon ça fait un peu bizarre, quoi. On a un peu l'impression d'être pas sur la même planète, quoi. Donc dans la mode, comme je dis toujours, c'est facile, parce que des gens qui veulent travailler dans la mode ou dans le luxe, il y en a beaucoup.
Ça fait rêver.
Je travaillerais peut-être dans la sidérurgie, ou je sais pas où, je veux pas.
Ça serait peut-être plus laborieux.
Il y a des gens passionnés de tous les secteurs. Au début, j'ai travaillé dans plein de secteurs différents, et il y a des côtés passionnants dans tous les secteurs. Mais je dirais là, par nature, il y a un côté plus excitant, en tout cas. Donc c'est ça. Après, il faut qu'ils partagent évidemment la même ambition, la même vision. Mais je crois surtout, c'est qu'il faut. Moi, je regarde toujours le succès des entreprises à travers le succès des individus. C'est-à-dire que c'est pour moi, c'est pour ça que quand je dis mon ambition ou mon rêve, c'est que Tori puisse se réaliser dans ce nouveau chapitre créativement, à un autre niveau, voilà, en se renouvelant. Mais je regarde toutes les personnes dans la société de la même façon, c'est-à-dire qu'ils puissent chacun réaliser leur projet professionnel et qu'ils soient aussi évidemment compatibles avec leur vie personnelle. Et quand on fait réussir les gens, individuellement, on réussit collectivement. Voilà. Et donc, moi, chez LVMH, quand je mettais des CEO et des créatifs, je ne les micromanageais pas, les CEO. Hein. Donc, moi, je gère maintenant mes collaborateurs. Donc, je suis CEO directement, même si je l'étais chez LVMH sur plusieurs marques à différents moments. Je leur donne énormément d'autonomie, de responsabilité. C'est des gens de bon niveau. Et je considère que je suis un sparring partner. C'est-à-dire je suis là pour
Change,
voilà, je suis là pour échanger, pour les guider, pour être plus efficace. Mais je suis là fondamentalement pour qu'ils réussissent leur projet professionnel. Alors évidemment, qui est lié par rapport aux objectifs de la société. Mais quand vous regardez... Moi, si je regarde, là, on a parlé de succès de société dans le passé, des choses que j'ai faites, et les choses ont changé. Hein. Maintenant, Phoebe, elle n'est plus chez Céline, Ricardo, il n'est plus chez Givenchy, Umberto, il n'est plus chez Kenzo, ils sont passés à d'autres choses. Mais donc, vous ne pouvez pas regarder en disant, ça, c'est du succès figé dans le passé, à la limite, ça ne m'intéresse pas tellement. Par contre, ce que je trouve intéressant, c'est tous les gens avec lesquels j'ai travaillé autour de ces 25, 30 dernières années, qui sont dans plein de marques. Il y en a plein qui dirigent des tas de marques. La plupart des CEO de la plupart des marques en France, ils ont travaillé avec moi à un moment ou l'autre, dans différents trucs. Et j'ai créé des conditions pour qu'ils puissent avoir des conditions pour qu'ils réalisent leur potentiel et qu'ils ont réalisé après et qu'ils avaient réalisé avant. Finalement, c'est ça que vous laissez. C'est la capacité... que vous avez, dans le rôle dans lequel vous êtes, d'aider d'autres personnes à réaliser leur potentiel professionnel et personnel. Et quand vous faites ça, je trouve que c'est une super clé de lecture à peu près à tout, parce que vous mettez les gens dans les bonnes configurations, vous avez le bon échange avec eux, vous accélérez le développement des gens qui ont le potentiel, vous faites évoluer les gens quand ils sont un peu au bout de leur histoire, mais avec respect et compréhension. C'est comme ça que moi je regarde les choses.
Trop bien. Deux, trois dernières questions. Qu'est-ce qui fait qu'une marque dure, réussit ? Qu'est-ce qui fait qu'une marque meurt ? Il y a plein de nouveaux projets. Ça n'a jamais été aussi facile de lancer une marque, mais ça n'a jamais été aussi difficile de la faire perdurer. Qu'est-ce qui fait, c'est quoi la différence entre les deux ?
D'abord, c'est vrai qu'il n'y a pas... Moi, je suis interpellé par le c'est difficile, hein, mais je pense que... Alors, est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui de lancer une marque que ça l'était il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans ? Je ne suis pas sûr. C'est-à-dire que, évidemment, on regarde les marques qui ont été lancées il y a 30 ou 40 ans et on voit, en Europe en tout cas, les Dior, les Kenzo. Aux États-Unis, on voit Ralph Lauren, etc. Mais il y en a plein qui ont essayé de lancer des marques à l'époque. Hein. Ce n'était pas les seuls. Il n'y a pas que Ralph Lauren qui a lancé sa marque il y a 40 ans aux États-Unis et qui en a fait ce que c'est. Il y en a plein d'autres qui ont essayé. Donc, j'ai pas les faits qui permettent de dire que c'est plus difficile aujourd'hui que hier. Il y a des facteurs qui peuvent rendre les choses plus faciles, l'internet, le digital, les social media, etc., qui donnent accès. Mais en même temps, c'est pas simple non plus. Il y a beaucoup de concurrence, etc. Le marché est plus grand et plus vaste, donc ça c'est bien parce qu'il y a énormément de potentiel. Et je pense que Thoré, elle lui dit toujours, moi je regarde pas un marché saturé ou pas saturé. Je regarde la façon d'arriver avec une proposition qui est différente. Quand elle a lancé sa marque en 2004, il y avait déjà plein de marques de mode partout, il y avait plein de gens.
Personne t'attend.
Voilà, donc c'est arriver à créer. Il y a un côté magique, il y a un côté mayonnaise. Donc il y a un moment où vous mettez tous les ingrédients. Et les ingrédients, les gens les connaissent. Donc vous pouvez lire n'importe quel textbook, vous avez les ingrédients. Mais à un moment, il faut mettre tout ça ensemble. Et pouf, voilà, ça marche. Et ça marche à un moment précis. Et ça, il y a un côté un peu magique dans ce truc-là. Donc, c'est difficile de si on arrivait à créer, je dirais, un système qu'on pouvait répliquer, les grands groupes le feraient. Ils y sont jamais arrivés, que ça soit un Kering ou un LVMH, de créer un incubateur de jeunes marques de mode. Voilà. Ça a jamais marché. Parce que c'est très aléatoire, et puis parce que les entrepreneurs, ils sont obligés de se débrouiller par eux-mêmes, parce que si vous le mettez sous l'égide d'un grand groupe, ils ne deviennent plus entrepreneurs, ça ne devient plus la même chose. Donc ça reste pour moi quelque chose d'un peu mystérieux, le succès des marques. Hein. C'est pour ça que je suis assez fasciné par le success story, et puis là on peut l'amener et de pouvoir le vivre. Je trouve ça extraordinairement riche par rapport à l'expérience que j'ai eue avant. Après, qu'est-ce qui fait qu'une marque dure dans le temps? Alors, le fait qu'elle survive, entre guillemets, d'un point de vue business, bah, faut éviter beaucoup d'erreurs. Comme dit Thierry, moi, j'ai dit non à 95% des choses. C'est-à-dire que le fait de rester extraordinairement focus, c'est énormément de boulot. C'est énormément de problèmes à gérer en permanence. Alors, on a parlé des crises, mais en dehors des crises. Et donc, il faut avoir la niaque, quoi. C'est-à-dire qu'il faut être très opiniâtre. Voilà. Il faut être extraordinairement opiniâtre. Vraiment être. Donc, c'est la caractéristique des entrepreneurs. Hein. C'est-à-dire que voilà, ils sont. Il faut être un super créatif, mais pas avoir forcément autant la niaque, quoi, de se remettre en permanence. Donc, je pense qu'il y a ça. Il y a forcément un facteur de chance que j'ai évoqué, de le bon moment. Moi, je vois des designers qui, à un moment, se sont lancés trop tôt, ils n'ont pas encore la maturité, l'expérience, et d'autres qui ont attendu trop tard. Il y a un moment où c'est trop tard, donc c'est quoi le bon moment? Voilà. Donc, mais à nouveau, chaque situation est différente. Thierry, elle a lancé, elle avait sa marque, elle avait 36 ans ou 37 ans. Voyez, on a toujours l'impression qu'il faut avoir une start-up qui est successful, il faut avoir 20 ou 25 ans. Si vous regardez, c'est même pas vrai d'ailleurs. Vous avez plus de chances d'avoir du succès si vous êtes plus âgé. Pourquoi? Parce qu'en général, vous avez essayé avant et ça n'a pas marché, il y a un moment, ça finit par marcher. Mais c'est interpellant. On a toujours l'impression que la start-up peut avoir 20 ans ou 22 ans. Non, c'est pas aussi évident que ça. Et puis après, donc il faut passer toutes ces étapes, arriver à survivre des crises, des machins, donc ça c'est quand même pas évident. Et après, ce qui fait qu'une marque reste, au fond, il faut qu'il y ait une richesse dans le contenu de la marque. Et ça, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait et dans le contenu du projet. C'est-à-dire que si vous êtes une marque uniquement basée, par exemple, sur une esthétique, mais derrière ou à côté, vous n'avez pas quelque chose de plus ancré, c'est-à-dire de plus permanent, vous allez passer. C'est-à-dire que moi, j'ai regardé plein de marques dans le passé, quand on regardait pour les acquisitions, etc. Et je voyais plein de marques qui étaient datées, qui avaient du succès dans les années 70, 60, ou même dans les années 20, etc. Mais vous regardez, c'est des marques qui ont eu du succès pendant quelques années, avec une esthétique très spécifique, et pas de profondeur. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'autre histoire derrière. Il n'y avait pas une personnalité. Il n'y avait pas une personnalité du fondateur, parce que c'est souvent un fondateur, qui se transmettait sur la personnalité de la marque avec une profondeur. Donc les marques qui durent sont les marques où vous avez beaucoup de facettes. Comme je dis, c'est des marques multifacettes. Et donc vous pouvez actionner plusieurs choses. Donc dans le futur, quand vous continuez à la faire vivre, vous actionnez différentes dimensions. Et d'une certaine façon, c'est ce que fait Thierry aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire qu'elle est enrichie en fait la marque. Elle a déjà plein de dimensions dans la marque par... Les gens vont la décrire, bah oui, elle adore les couleurs, elle est plus bohémienne chic ou c'est plus American sportswear. Et en même temps, c'est elle. En même temps, c'est le logo qui est très puissant. C'est un des logos les plus forts de l'industrie, le logo qu'on a, qui est incroyable parce qu'il a, il y a un côté presque mythologique dans son esthétique. Donc, il y a plein de choses. Donc plein de dimensions. Et donc d'ailleurs selon les projets, selon ce qu'on fait, la fondation évidemment qui est au cœur de tout ce qu'on fait. Et donc c'est la marque, elle est riche de plein de facettes. Et les marques riches de plein de facettes, elles ont de la profondeur. Et la profondeur vous donne de la capacité de les faire vivre dans le temps. Parce que vous pouvez actionner différentes dimensions. Si vous êtes monodimensionnel, c'est-à-dire vous avez une esthétique en général, d'abord vous passez pas à la crise d'après, parce que la nouvelle mode, même si jamais maintenant il n'y a plus des modes aussi spécifiques que dans le passé où il y avait le court, le long, le truc, etc. Maintenant c'est beaucoup plus divers, mais quand même, il y a quand même des tendances. Vous ne la passez pas, et puis ensuite, bah, une fois que vous ne l'avez pas passé, les gens regardent, et en fait il n'y a pas assez de profondeur. Donc je pense que c'est ça qui font que toutes ces caractéristiques fait qu'une marque de mode ou de luxe dure dans le temps, ou qu'elle finit par disparaître, ou qu'elle est très difficilement réactivable, puisqu'il y en a que les gens ont essayé de réactiver, mais quand je vois, à la fois il faut trouver le bon talent, tout ce qu'on a évoqué, mais il faut qu'il y ait aussi de la substance, pour activer.
De l'aspérité, ouais. Deux dernières questions. J'ai une marque qui s'appelle Réunie. Je ne sais pas si tu as eu le temps d'y jeter un coup d'œil.
J'ai jeté un coup d'œil, oui, rapidement.
Alors, qu'est-ce que tu me conseilles, toi? Et ça peut être des conseils un peu plus généraux, hein, sur ouais, t'es jeune entrepreneur. En tout cas, voilà, qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer ma marque et quels sont les pièges dans lesquels il faut pas tomber, même si t'en as égrené quand même pas mal des conseils déjà. Hein.
Alors ça nécessiterait une discussion un peu plus approfondie. Mmh. Et puis il faudrait qu'on regarde, qu'on se balade sur le site, qu'on regarde les produits et tout, parce que c'est en regardant les choses et qu'on peut avoir de l'insight. Moi, ce que je trouve intéressant dans ton projet, et on en a pas parlé, et c'est un sujet très intéressant et très très important pour la marque, c'est le côté sustainable, RSE comme on l'appelle globalement. Alors j'ai parlé beaucoup de la fondation et donc le côté sociétal, mais je trouve que de produire juste est quelque chose qui est clé dans tous les métiers et dans la mode en particulier. On parle beaucoup d'environnement, de créer des produits qui sont sustainable avec des en termes de à tout point de vue. Mais la première chose, c'est d'avoir un niveau, c'est de produire juste, c'est-à-dire et c'est compliqué dans la mode parce que on doit projeter les ventes qu'on pense réaliser au niveau de la référence, c'est-à-dire du modèle, de la couleur, etc. Et sauf si vous avez une boule de cristal, c'est quand même compliqué à faire. Donc, on n'arrive jamais à prédire exactement combien on va vendre de ce modèle-là, etc. Donc, et comme on veut pas produire et ensuite mettre tout ça sur le marché et quand ça se vend pas, les mettre en solde et a fortiori les détruire, il faut arriver à trouver de l'agilité en termes de délai de fabrication, en termes de produire au plus juste. Et donc, je trouve que dans ton projet où tu produit en fait à la demande, à la commande, bah forcément tu produis juste parce que tu produis un produit que les clients vont acheter parce que et ça je trouve que alors on peut aller jusque là, donc on peut pas faire ça à toutes les échelles pour toutes les marques parce que ça deviendrait compliqué. Puis les gens quelquefois veulent avoir le produit tout de suite, donc ils arrivent et puis ils veulent acheter le produit tout de suite. Mais je trouve que réfléchir comme ça, quasiment en partant de ça, c'est que je produis un produit pour un client juste. C'est une bonne façon de démarrer en poussant le curseur à l'extrême. Et puis après, on peut remonter en disant, OK, donc ça, je peux le faire pour une partie. Et le reste, il faut que j'ai suffisamment d'agilité dans ma fabrication de façon à pouvoir être au plus juste. Quitte à un moment à être en rupture sur certains produits. Et puis en essayant de réduire les délais dans... Alors ça, c'est de la supply chain, on pourra en parler. Réduire les délais dans les cycles de fabrication, les délais. Quand vous êtes dans un business intégré comme nous, on est, où on vend dans nos magasins et en e-commerce, parce qu'on fait... 85% de notre business est direct to consumer.
Zéro wholesale,
et ben, on peut gérer ce cycle-là. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Après, on va pas parler de la dimension esthétique. Pour moi, le point qui m'interpelle toujours, et je trouve ça, et j'ai pas la réponse parce que je l'ai jamais vraiment fait, c'est quand tu demandes au client ce que le client veut. J'aime beaucoup l'idée. Mais je trouve aussi que le client, aime bien qu'on lui dise ce qui est bien pour elle ou ce qui est. C'est quelquefois difficile de choisir.
Bien sûr.
Et on a parlé du rôle du directeur artistique. Le rôle du directeur artistique, c'est au fond de faire un choix pour le client. Quand nous on fait des propositions de styling, par exemple, on fait une proposition pour le client. Quand Ori elle fait, mais même on a d'autres catégories que le, par exemple on a une catégorie qui est toute la maison, donc avec des assiettes et des etc. Vivre, qui est magnifique. J'encourage tout le monde à aller voir sur le site. La façon dont on organise une table, ça paraît simple, ou même un bouquet de fleurs, etc. C'est compliqué. Et donc les gens sont très en attente de ce conseil-là.
Une proposition,
mais même dans les magasins, quand je vois dans les magasins, les gens arrivent et puis ils disent bon, vous pensez que je devrais prendre celle-là ou celle-là, celle-là elle me va mieux, etc. Donc moi, j'aime bien l'idée de demander au client ce que le client veut.
Mais pas trop.
Et en même temps, voilà. En même temps, si tu pars quelque chose qui est
assez général,
et tu dis maintenant, tu peux le personnaliser. Donc, tu peux choisir si c'est un sac, par exemple. Tu peux avoir une personnalisation. Nous, on le fait, par exemple, sur un de nos sacs. Ça s'appelle le double D-bag, donc il y a des aimants de personnalisation. On peut choisir, par exemple, les l'intérieur, on peut avoir ses initiales, etc. Ça, le client aime bien ça parce qu'il rajoute sa touche personnelle et donc ce produit-là devient unique d'une certaine façon. Mais c'est quand même sur une base qui est existante.
Bien sûr.
Donc c'est cette tension-là. Mais je trouve le dialogue avec le client est hyper important. Le côté sustainable par produire juste est pour moi très pertinent. Très pertinent. Voilà. Après, le reste, on pourrait en...
On va prendre rendez-vous. Ça marche. Et dernière question pour passer le relais, transmettre, être dans la continuité. Qui souhaiterais-tu entendre dans ce podcast, toi?
Il y en a tellement. Tori d'abord, ouais. Parce que là, tu vois, moi, elle parlerait tout ça de façon encore plus inspirante que ce que je peux faire, parce qu'elle le fait, donc, et elle l'a fait au cours de toutes ces années. Alors, elle a un peu de mal à faire en français, parce que je crois que son français.
Mais on peut le faire encore, en anglais, pas de problème.
Pas encore.
Je parle anglais.
Et pas encore juste, mais voilà. En tout cas, j'encourage tout. Elle fait pas mal de choses dans d'autres interventions, mais l'écouter est assez fascinant. Alors évidemment, je le dis pas parce que c'est mon épouse, que je travaille avec elle, mais à nouveau, comme je dis, créer quelque chose à cette échelle-là. Tous les jours, j'arrive et je me dis, mais si on est tous là, c'est parce qu'elle a créé ça, quoi. C'est-à-dire, c'est quand vous avez 6000 personnes et que vous avez cette activité, etc., c'est parce qu'elle a conçu ses idées, ce concept, et qu'elle l'a mis en œuvre. C'est quand même quelque chose d'assez magique.
C'est sublime.
Voilà. Sinon, dans la mode, il y a plein de gens passionnants. Il y a des personnalités vraiment intéressantes. Je trouve au cœur, moi, j'ai découvert ça en rentrant chez LVMH quand j'avais assez tard. Moi, je le voyais un peu de façon superficielle. Moi, je me considère pas comme quelqu'un de mode à titre personnel. Ouais, mais j'ai une passion pour ce métier et j'ai une passion pour les gens qui travaillent dans ce métier. Au cœur de la mode, il y a vraiment des gens passionnés. Il y a des gens qui font vraiment des sacrifices pour pouvoir travailler dans ces métiers-là, parce que c'est pas facile tous les jours. Surtout les jeunes ou les entrepreneurs, etc. Et je trouve leur passion inspirante. Je trouve ceux qui ont travaillé dans et qui ont construit des histoires et qui avaient 10 ou 15 ans de plus que moi et qui m'ont appris plein de choses, je suis très admiratif, parce qu'ils ont créé ces cycles du développement du luxe qui n'existaient pas, à commencer évidemment par Bernard Arnault et évidemment d'autres. Voilà, et puis je trouve plein de gens inspirants. Là, vous avez tu vas t'en occuper pendant un certain nombre d'années, parce qu'il y a vraiment il y a plein de gens vraiment intéressants dans ce secteur là.
Eh ben, merci infiniment pour ton temps et merci d'avoir été hyper généreux dans tes propos. Good luck, bonne continuation.
Merci,
et puis
je passe
le message à Tori, je l'invite anytime.
Absolument, merci beaucoup.
Salut.
Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous cherchez les notes de l'épisode avec toutes les références, c'est simple. Allez sur le blog du podcast www.entreprendredanslamode.com. Aussi, si vous souhaitez me contacter ou me suggérer de nouveaux invités, vous pouvez le faire sur Instagram sous le pseudonyme @entreprendredanslamode. Enfin, le plus important, laissez-moi un avis sur Apple Podcasts ou iTunes, 5 étoiles de préférence. Cela m'aide à faire connaître le podcast à plus de monde et m'encourage à faire de meilleures interviews. Merci de soutenir ce podcast et à bientôt pour un nouvel épisode.